Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Les midis à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite, c'est avec vous Gilles Moreau. Gilles, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à tous. Dans l'actualité, une semaine après, le Venezuela tente de se remettre de la catastrophe. Les opérations humanitaires se poursuivent dans des conditions très difficiles. Chaque heure qui passe réduit encore les chances de trouver des survivants dans les décombres. Le Qatar accueille aujourd'hui des discussions techniques en présence d'Américains et d'Iraniens. Objet de leurs échanges indirects, la mise en œuvre de l'accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Dans ce journal aussi, les ambitions d'Édouard Philippe à moins d'un an de la présidentielle en France. Au mondial de football, les Bleus en démonstration contre la Suède. Et la mort du chanteur de disco, Victor Willis, le leader de Village People. Le double séisme au Venezuela, c'était il y a une semaine. Une semaine après, le bilan s'établit à près de 2000 morts, de très nombreux blessés, des dizaines de milliers de disparus. Bilan toujours provisoire et parcellaire dans un pays soumis à des restrictions de communication. Le gouvernement a ainsi limité l'accès à l'état de la Guayra, le plus durement touché, en imposant aux bénévoles l'obtention d'un laissez-passer livré à elle-même depuis le premier jour. Les familles tentent désespérément de déblayer elles-mêmes les ruines pour y extraire les corps de leurs proches. Chaque jour, elles interpellent les sauveteurs internationaux dans l'espoir de pouvoir donner aux victimes une sépulture. Reportage de nos envoyés spéciaux Mélissa Barra et Jade El-Khoury.
Cet homme aborde un groupe de secouristes, mais il ne parle pas leur langue avec difficulté. Il explique qu'il s'appelle Juan Rodriguez et tente de savoir où se trouve leur campement pour pouvoir les prévenir lorsqu'il aura repéré les restes de sa sœur Dayane.
Elle était au sixième étage de cette immeuble. On en a déjà sorti 10 victimes. Il ne reste plus qu'elle. C'est nous, les familles, qui effectuons les recherches par nous-mêmes. Dès qu'on repère quelqu'un, on le sort pratiquement à main nue. Mais quand ça devient trop complexe, on a besoin d'aide. On fait appel aux autres professionnels. J'ai dû emprunter 3 pelleteuses.
À quelques rues de là, Valeria, une jeune femme de Caracas, interpelle à son tour les sauveteurs. Elle les supplie de l'aider. Son père, elle sait où il se trouve. Depuis des jours, elle peut voir son corps au milieu des décombres. Il avait emménagé dans cette ville balnéaire 2 jours avant les séismes.
Je veux l'enterrer dignement. Pour cela, il faut récupérer ce qu'on peut. Je sais que mon père n'est plus parmi nous, mais je ne peux pas le laisser là. J'ai acheté du matériel, j'ai un groupe électrogène, des pelles, des pioches, une meuleuse, des disques de coupe. Je n'ai pas besoin d'une escadrille. 3 ou 4 personnes suffiraient. Ça ne prendrait pas plus d'une demi-journée.
L'ONU estime à des dizaines de milliers le nombre de disparus. À ce rythme, localiser et extraire toutes les victimes prendra des semaines. Mélissa Barra, Jade El-Khoury, Caravaggeda, RFI.
Les États-Unis ont commencé à expulser des migrants illégaux vers un pays du Pacifique, l'archipel des Palaos, pays très peu peuplé. Sous la présidence de Donald Trump, les Américains ont intensifié leurs efforts pour expulser ces migrants, en proposant de les réinstaller dans des pays tels que l'Ouganda, le Salvador, le Rwanda et donc des territoires du Pacifique. L'immigration en débat aux États-Unis, toujours elle. La Cour suprême vient d'infliger un revers à Donald Trump sur le droit du sol. Elle refuse de limiter l'accès automatique à la nationalité américaine pour les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière. Le président républicain fustige cette décision et appelle le Congrès à l'aider à mettre en œuvre la mesure par voie législative. Mais peut-il vraiment contourner une décision de la juridiction suprême? Réponse d'un spécialiste, Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine et professeur à Sciences Po.
Il peut essayer de faire passer une loi, mais elle sera a priori remise en cause, et c'est ce que disent tous les spécialistes, par cette décision justement de la Cour suprême. Donc il faudrait en fait un amendement constitutionnel. Il faudrait donc changer la Constitution, et ça c'est quelque chose de totalement irréaliste puisqu'il faut 2/3 du Congrès. Ce que fait Trump, c'est un schéma rhétorique assez classique, il transforme une défaite juridique en mobilisation politique. C'est un signal envoyé à l'électorat MAGA avant les midterms de novembre pour motiver son électorat. Donc il n'y a pas de surprise dans cette demande de Trump qui est pourtant tout à fait irréaliste sur le plan en tout cas juridique et institutionnel. On n'est pas du tout dans un contexte politique qui permet ce genre de choses puisqu'il faut vraiment un bipartisanisme qui n'existe plus. Là, on est vraiment dans une opposition entre les deux parties là vraiment on est dans quelque chose qui ne permettrait pas ce genre de choses.
Jérôme Viala-Godefroy avec Sofia Katsenkova. Des représentants américains et iraniens tiennent des discussions techniques ce mercredi à Doha. Objet de leurs échanges indirects, la mise en œuvre de l'accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Par ailleurs, syndicats et employeurs du secteur maritime continuent de considérer le détroit d'Ormuz comme une zone de guerre. Classement qui prolonge le doublement de salaire pour les marins qui acceptent d'y naviguer. L'actualité politique en France maintenant, c'est un air de pré-campagne présidentielle. À l'approche de son premier meeting de campagne dimanche prochain, Édouard Philippe tente de monter en puissance dans les médias. L'ancien Premier ministre vient d'enchaîner une interview aux Échos et la matinale d'RTL. Édouard Philippe ne veut pas laisser Gabriel Attal, qui se démultiplie depuis des semaines, occuper seul le terrain. Valérie Grasse.
Ce meeting dans l'entourage d'Édouard Philippe, on en attend beaucoup. C'est le premier meeting post-horizon. Une manière de dire que c'est le moment où Édouard Philippe va faire sa mue, commencer à parler à tous les Français et plus seulement aux sympathisants de son parti. Et la salle va être pleine, assure l'un de ses lieutenants, pour répondre aux rumeurs selon lesquelles elle serait configurée pour masquer un nombre de participants en deçà des attentes affichées, soit 5000 personnes. Dans la compétition avec Gabriel Attal aussi, ce moment est déterminant. Le patron de Renaissance a lui déjà réuni ses partisans le 30 mai dans un grand meeting et depuis, il se démultiplie dans les médias et sur le terrain. Édouard Philippe sait donc qu'il doit passer à la vitesse supérieure pour garder son avantage dans les sondages. De premier ralliement de macronistes annoncés récemment, la ministre Maud Bréjon, l'ancien député Éric Woerth, donne le sourire à son équipe. Mais la course ne fait que commencer. Édouard Philippe a fixé ce matin sur RTL la fenêtre pour se départager entre octobre et février prochain, car il faut qu'il n'en reste qu'un pour éviter le second tour RN LFI.
Valérie Gasse, chef du service politique. Au Mondial de football maintenant, la suite des 16e de finale. Trois matchs au programme. Aujourd'hui, à 16h TU, la RD Congo défiera l'Angleterre. Et à 20h TU, le Sénégal jouera contre la Belgique. Enfin, la nuit prochaine, les États-Unis, pays hôtes, seront opposés à la Bosnie-Herzégovine. On revient maintenant sur la performance des Bleus de Didier Deschamps. Hier soir à New York, succès net et sans bavure. 3-0 contre la Suède, qui place ses Bleus encore un peu plus au rang de favoris. La France a été éblouissante de maîtrise, de justesse, de créativité et même de joie dans son jeu. Reportage à New York de Thomas de Saint-Léger.
Magique, magnifique, incroyable.
Avec tous les accents du monde, des adjectifs à faire rougir les Bleus. L'Amérique est amoureuse de cette équipe dominante et spectaculaire. Pierre, un Français installé aux États-Unis.
Vous n'avez pas vu le stade? Comme on dit ici chez nous, we outspend everybody, man. Il n'y avait que du bleu partout. On avait l'impression qu'on jouait en France. C'est la classe.
La classe dans les gestes. Sur un ciseau retourné, Olise en l'air suspend le temps. Kylian Mbappé l'accélère et trouve deux fois les filets. À la sortie du capitaine, révérence de son sélectionneur Didier Deschamps. Football champagne, football plaisir. Bradley Barcola, l'autre buteur du soir.
C'est incroyable le plaisir qu'on prend tous ensemble. Qu'on attaque, qu'on défend ensemble. Franchement, c'est une vraie fierté. C'est magnifique de jouer avec des joueurs qui ont tant de talent. Donc on peut que prendre du plaisir sur le terrain.
Avec le sourire, les Bleus planent sur la compétition. Invincible, peut-être, l'avis du latéral Malo Gusto.
Non, on ne sent pas invincible, ce serait, je pense, inconscient de dire ça, mais on sait qu'on a la confiance avec nous, voilà, on sait que tout le peuple français est derrière nous aussi, on arrive à les faire vibrer, je pense que c'est à nous de continuer comme ça et voilà, montrer qu'on veut se battre pour la Coupe, tout simplement.
Prochaine étape samedi contre le Paraguay, le même huitième de finale qu'en 1998. Vous connaissez la fin de l'histoire. Thomas de Saint-Léger, New York RFI.
Et le tableau des huitièmes de finale est en train de se compléter à cette Coupe du Monde, donc il y aura France-Paraguay. Mais aussi ce week-end, Canada, Maroc et Brésil, Norvège. Tout savoir sur la Coupe du Monde, les résultats, le programme, c'est sur RFI.fr. Allez, on passe à la musique. On a appris ce matin la mort de Victor Willis, leader de Village People, célèbre groupe disco des années 1970. C'est lui qui apparaissait sur scène en uniforme de policier. Il disparaît à l'âge de 74 ans. Tout de suite, l'un des tubes de Village People, Macho Man.
Macho man, yeah, I've got to be a macho. Ow! Macho, macho man, yeah, I've got to be a macho man. Macho, macho man, yeah, I've got to be a macho.
Victor Willis, leader des Village People, il meurt à l'âge de 74 ans. Bientôt midi 10 ici à Paris, l'heure de retrouver Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, prochain journal dans 50 minutes et chez 8 milliards de voisins, nous allons parler de la complexité foncière en Afrique avec bien sûr Vos appels, les voisins et les voisines, en direct sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
C'est à vous.
Don't. Capitule dans le calme.
Principe actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure 95.9.
Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris.
Alors, tu veux dire que tu spells que nous avons bien compris.
Parfait, il n'a rien compris.
This is for my people, yo. Soco music, freedom, yo. This is for my people, yo. Soco music, freedom, yo. This is for my people, yo. Soco music, freedom, yo.
Music for my people, so let the frequency come free your soul. Keep your head up, no wahala, yo. Keep your head up, no wahala, yo. This is music for my people, so let the frequency come free your soul. Keep your head up, no wahala, yo. Keep your head up, yo. Gotta make moves, get a piece up. Stay gang when I drank, can't ease up. Got fam to feed, I can't ease up. Keep money on my mind till I feel up. Gotta take these grams wrapped up in a cellophane truck. Sweet Jesus, bleed leaders, I the belly of the beast, where I breed up. No fruit on
Sans t'es rentable, y prendrait du cash pour jouer de l'orgue à ton enterrement. C'est plus la peine de ça jouer faussement socio-sentimental. Votre hypocrisie me dégoûte tellement. Hey, on a affaire à une belle bande de confilis. Ils mettent des amendes à des sans-abri, leur bande de scrofilis. Je crois qu'on atteint le point de non-retour. Godwin a gagné, je vois des chiffres négatifs défiler sur le compte à rebours. Le temps presse, donc plus rien ne me tempère. Y'a comme un avis de tempête et la colombe a pris la poudre des scampettes. Putain, du mal à nous imaginer à N plus 1. La frontière est fine de Laurent Fabius à Agnès Buzyn. La mort frappe à chaque étage et toutes les strates. Nos soignants voient des vies s'envoler, les autres voient des stats. La chute sera violente depuis leur piédestal. Tous les voyants sont dans le rouge et je crois que ça leur est bien égal. Ils vivent cette crise dans le confort de la distance. Mais quand vient le moment de s'entrer des motos, y'a pas de dispense. De l'athée aux musulmans, du juif aux cathos pratiquants, de cette garbore les talismans aux réfugiés du Pakistan. J'envoie toutes mes pensées, ma force aux premières lignes, au corps médical, aux familles des victimes. Il ne faut pas que toutes ces pertes ne fassent que partie d'un listing. Car mourir pour sauver les vies, ça mérite toute notre estime. On sait bien qu'ils font de leur mieux dans des conditions déplorables. La rage aux yeux, quand le cri ne trouve pas d'oreille, leur regard va vers les cieux. Mais on ne connaît que très bien le sang de ceux qui se prennent pour Dieu.
Confiné des hypopitaux, le service d'urgence musicale, c'est de l'oxygène, mon protéto. Mon fils de 6 ans sur la moto, agrippé à mon dos. Éviter les barrages, c'est comme un dédale, c'est qu'une athène, même pas les pédales. Le soignant garant de nos vies, les frères et sœurs qui sont au logis. Avec mon titre honorifique de rappeur en pneumologie. Pareil que c'est la détresse pour mettre des masques au personnel qui va vous soigner. Mais pas pour fournir au CRS des lacrymos, des LBD. Je veux bien ne pas critiquer les lacunes de l'état-providence et le manque de moyens mis dans la santé, dans les respirateurs d'urgence. Macron garde ta mort à la toi, car y a pas eu de mort sous ton poids. Moi je vois le salaire des soignants, faudrait peut-être faire un moratoire à ta prochaine de choc vitaux. Viens te faire soigner en disgrâce, car tous les hôpitaux de France ne ressemblent pas au Val-de-Grâce. Car vous n'êtes que des populistes omnubilés par leur carrière. Il n'y a plus d'idéalistes politiques dans les cimetières. Et on n'est pas des arrivistes qui visent à redorer leur blason dans le Jura. Au-delà des antibiotiques, le streptocoque doré leur portera. On a nos masques de braquage qu'on prête à ceux qu'on en a besoin. On a de l'alcool, mais pas tellement sur les mains. Une bande de délinquants morbides venus faire craquer le Covid. Parce qu'avec un stylo big, on fait une traque. marqué au chromie, j'ai l'habitude des gyrophares. Mais c'est plus les mêmes sirènes, la seule fièvre qu'on vit quelque part devrait être celle d'NTM. La souffrance aux soins est immense, j'ai pas vu de députés mourir dans les couloirs sur un brancard des urgences. Il y a urgence et j'ai... Yeah. Peut-être que l'irradiation des villes et la radiothérapie de la nature. Pour soigner un cancer hostile, faut que l'humain paye sa facture. Peut-être que c'est le drame dans les villes, parce que vous êtes juste des fous débiles. Et lorsque l'humain disparaît, reviennent les loups de Tchernobyl.
Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. J'écris de l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie sur le monde, on va percer la foule. On rend plus passage les plus démunis. Je ce que j'ai pour marquer mon temps. Des grosses bringues, mais pour l'heure il est temps de retrouver le bonheur dans des choses simples. Angoisse en petite surdose, l'ennemi est invisible. Les gens comprennent très bien ce qu'ils risquent depuis que le monde s'est mis sur pause. Mouvement de panique en grande surface car se joue notre vécu. Mais que tous ces égoïstes se mobilisent dans la roue notre PQ. On était prêts, mais j'y crois pas, des masses. On rentre dans une sale face, hélas la preuve. Nos hôpitaux vous ont dit pas les masses. Dites-moi ce qu'il reste en France dès que les sirènes s'entendent. Dites-moi si je rêve qu'on